Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, tout l'été Accent d'Europe vous propose de réentendre ses meilleurs moments. En plein milieu de l'océan Indien, entre Madagascar et le Mozambique, Mayotte, 101e département français, est devenue une destination privilégiée pour les migrants. L'île très pauvre d'Anjouan ne se trouve qu'à 70 km. De nombreux Comoriens prennent donc le risque de faire le voyage sur de petites barques. Beaucoup viennent sur l'île pour se faire soigner. Les femmes viennent même accoucher à Mayotte. Le reportage de Frédéric Lebel.
Kaweni, le plus grand bidonville de l'île. C'est là qu'échouent les migrants sans papier après une traversée en kwassa-kwassa dans l'océan Indien. On y croise des ribambelles de jeunes enfants, mais aussi beaucoup de malades, des clopés, des Comoriens qui ont risqué leur vie dans l'espoir de la sauver. Farouk a 17 ans, il marche avec une béquille. Il est arrivé directement ici après un très grave accident de moto sur l'île voisine d'Anjouan. Autant dire qu'il revient de loin.
Il est blessé sur la jambe gauche, avec la main gauche aussi. Tu vois, dans sa figure, il était blessé encore ici.
Il a le front renfoncé, ouais.
Avec le front aussi, il a perdu encore des dents ici.
Et il ne peut pas marcher normalement?
Oui, il ne peut pas marcher normalement. Il a dit que c'est trop dur de prendre le kwassa-kwassa pour venir ici. Surtout les gens qui sont blessés comme ça, parce que lui, il a préféré de mourir dans le bateau que de descendre sur le sol. Parce que c'est très dangereux. Il souffrait beaucoup.
Un peu plus loin, c'est Afan Hassan Hussein qui nous raconte une pathologie musculaire qui le laisse sans force. Aux Comores, nous explique-t-il, les soins sont à la fois défaillants et hors de prix.
La différence, c'est qu'à Mayotte, on n'achète pas les médicaments. Il y a quand même l'aide là, mais aux Comores, tu payes les visites, tu payes les médicaments, tu payes tout est monopolisé pour l'argent. À la différence, c'est à Mayotte.
Mais c'est dangereux quand même de venir depuis les Comores, non?
On est obligé. Mieux vaut avoir une bonne santé que d'avoir de l'argent sans la bonne santé. La santé, ça coûte cher. Si tu es malade là, tu es foutu. Comment tu vas travailler?
Quelques kilomètres plus au sud, on trouve le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, un établissement qui est confronté de plein fouet à ces questions migratoires. Docteur Ba Assoumani, chef du service des urgences.
On est en France, mais on se croit en Afrique sur certaines choses. On ne voit pas sur les pathologies. Les patients, on les voit vraiment démunis. On est vraiment confrontés à la misère. C'est très éprouvant. Les internes, on leur dit quand ils arrivent, les étudiants en médecine, au premier semestre, on leur explique qu'ils vont être confrontés à des choses très dures, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à en discuter parce que c'est un lieu très intéressant pour apprendre, ça c'est sûr, mais qui nécessite un investissement et beaucoup d'émotions. On voit des patients où on se dit que effectivement, il n'est pas né du bon côté de la planète, quoi. Mais là, effectivement, on est confronté quotidiennement à des gens qui sont vraiment en grande difficulté, en grande précarité. Et puis des enfants où on se dit, ils n'ont juste pas de chance, quoi. Des fois, c'est des petites infections, une gastro-entérite qui tourne mal chez un enfant parce qu'il n'y a pas les moyens de suivre les traitements correctement.
Reziki est aide-soignante à l'hôpital depuis 12 ans et elle voit aussi quotidiennement débarquer des migrants dans un état très critique.
Lamentable. Lamentable. Ils arrivent dans un état lamentable parce qu'ils peuvent avoir des fractures qui ont duré depuis des semaines et des semaines. Ils peuvent arriver avec des tubulures qui posent un peu n'importe comment. Ils peuvent arriver morts. Sur la plage, ils sont décédés sur la plage parce que ou les secours n'étaient pas au courant, ou ils arrivent, c'est trop tard. Parce qu'il y a tellement d'urgences qu'on ne sait même plus par lesquelles il faut commencer, lesquelles on va prendre les plus urgents par rapport à l'un à l'autre, quoi.
Il faudrait 38 médecins à temps plein pour pouvoir faire face à la charge de travail. Ils ne sont que 17, épaulés par une petite dizaine de contrats temporaires. Autant dire que l'établissement est saturé. Même constat à la maternité. Le nombre de naissances a atteint le chiffre astronomique de 9000 par an. Et là aussi, beaucoup de parturientes sont originaires des Comores. Toherdine est enjouané, il se promène dans le couloir avec sa fille dans les bras. La troisième est née comme ses deux sœurs aînées à Mayotte.
La première fille, elle s'appelle Afida, elle a 6 ans. La deuxième fille, elle s'appelle Ibriza, elle a 5 ans. Et la troisième fille, elle s'appelle Tahia, elle a 3 heures de temps. Voilà.
Si sa femme a effectué la traversée pour venir à Mamoudzou, c'est bien sûr parce que les soins sont meilleurs, mais peut-être aussi et surtout parce que les parents espèrent que leurs enfants seront un jour français.
Évidemment que oui, il y a la loi française qui est là, il y a ce qu'on appelle droit du sol. L'enfant, quand il a 13 ans, alors là, impérativement, il devient français. Et quand il est français, évidemment, ses parents profitent derrière ce papier que l'enfant va obtenir à partir de 13 ans. Donc tout devient avec aisance impeccable, quoi. Oui. Donc c'est ce qu'on souhaite, d'avoir une vie meilleure et confortable.
Comment ça va, madame ? Vous avez pas mal au ventre ?
Non.
Pour accompagner ces nourrissons dans les premières heures de leur vie, l'hôpital a désormais un aumônier musulman. Bakar Hamada a un avantage de taille pour communiquer avec les migrants. Il parle toutes les langues de la région.
Hodi, Simila, salam alaikum.
Dans ses visites quotidiennes, il affectionne particulièrement le rituel d'entrée des nouveau-nés dans sa religion, l'islam.
Par exemple, à la naissance, il n'y a pas un baptême où on ferait une action qu'on ferait pour faire rentrer ce bébé dans la religion musulmane, parce que le nouveau-né est considéré comme il est né dans la religion pure. Qu'on fait au bébé, c'est de lui murmurer à l'oreille droite ce que dit le muezzin en appelant les fidèles à la prière. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Mais parce que l'hôpital de Mamoudzou n'est pas un hôpital comme les autres, la mortalité infantile y est aussi plus forte qu'ailleurs. Les abandons d'enfants morts-nés aussi. L'an dernier, Bakar Hamada a enterré une centaine de bébés.
À Mayotte, le reportage de Frédéric Lebel. Londres continue son inexorable expansion. Il n'est pas exclu que la capitale britannique avale encore quelques banlieues de l'Ouest d'ici peu. Elle gagne aussi en hauteur avec les gratte-ciels, mais également en profondeur. Les Londoniens les plus cossus font creuser des pièces sous leur maison, parfois plusieurs niveaux. Et ça ne plaît pas à tout le monde, Marie Billon.
Dans le quartier chic de Kensington, avec ses petites maisons si typiques, quand on entend le bruit de travaux, c'est rarement parce qu'un nouvel immeuble est en construction. C'est plus certainement un riche propriétaire qui se fait creuser un home cinéma ou une piscine ou peut-être même un garage pour ses voitures de luxe. Le quartier de l'ouest londonien croulait jusqu'à récemment sous les demandes de permis pour les basements, comme on dit. La mairie de Kensington et Chelsea en a reçu plus de 450 en 2013 contre une vingtaine seulement il y a 10 ans. Voilà pourquoi elle a adopté en 2014 des règles visant à restreindre les constructions souterraines. Elles ne doivent plus dépasser 50% de la surface du jardin parce que certains propriétaires n'hésitaient pas à étendre leur maison jusque sous la rue. Ce qui n'était pas du goût des voisins, toutes ces machines bruyantes, ces rues fermées, ces places de stationnement condamnées pour cause de travaux. Malgré cette nouvelle réglementation, la vie n'est pas encore rose à Kensington. Même l'ambassade de France s'est pour l'instant fait débouter par la justice après avoir tenté d'empêcher un multimillionnaire de créer sous sa maison un parking avec grande roue pour y entreposer ses voitures de luxe. Le quartier de Westminster, dans le centre, qui lui n'impose aucune limite, est désormais le théâtre principal de ses travaux. Les propriétaires ne veulent pas quitter ces quartiers historiques pour avoir plus grand, plus moderne. Ils préfèrent se créer de véritables manoirs en sous-sol et multiplier ainsi la valeur de leur propriété. Ils laissent aussi apparemment de gros cadeaux aux archéologues du futur. Selon la presse anglaise, il est souvent plus cher de remonter les machines que de les enterrer sur place.
L'Europe a beau les avoir autorisés à la vente, on les voit encore trop peu sur les étals. Les légumes et les fruits tordus, non conformes aux normes de la grande distribution, moches en un mot. Ils sont toujours très peu valorisés auprès des consommateurs. Mais avec la crise qui accable plus particulièrement certains pays d'Europe, cela pourrait changer. Ainsi au Portugal, il y a 3 ans, lorsque la crise battait son plein, une jeune ingénieure en environnement, Isabelle Soares, en a eu assez de voir ses produits transformés en soupe ou jetés. Avec des amis, elle a lancé la coopérative des fruits moches. Aujourd'hui, 4 tonnes d'aliments sont sauvées par semaine et tout le monde y trouve son compte, maraîchers et consommateurs. C'est un reportage de Marilyn Darcy.
La chambre froide de l'exploitation agricole de Miguel tourne à plein. Les pommes et les poires de ses vergers y sont entreposées en attendant l'arrivée de l'équipe de Fruta Feia, le fruit moche. Trois fois par semaine, Isabelle et Mia passent chez l'agriculteur pour y prendre les cajots de pommes et poires qu'elles ont commandés. Miguel est l'un des 51 producteurs de la région de Lisbonne, fournisseur de la coopérative des fruits moches. Et pour lui, c'est une aubaine.
Ces fruits-là, s'ils ne partaient pas chez Fruta Feia, ils iraient chez un industriel pour être transformés en jus. Mais mon prix de vente ne serait pas le même. 7 centimes le kilo, alors que Fruta Feia me les prend à 25, 30, voire 40 centimes selon la qualité. Et puis un industriel met 15 jours, 1 mois, voire plus pour nous payer.
Récemment encore, Miguel n'avait pas trop le choix pour ses fruits non conformes, car hors calibre, trop gros, trop petit, taché ou mal formé. Soit les vendre à un vil prix pour l'industrie de transformation, soit les jeter. Sa production reste dans le circuit grâce à Isabelle Soares, qui a développé le concept des fruits moches.
Les distributeurs refusent les fruits non conformes parce qu'ils pensent que les consommateurs ne vont pas les acheter. Il n'y a pas si longtemps, on associait les aliments esthétiquement parfaits à une meilleure qualité. Ce modèle de consommation est en train de changer et aujourd'hui, les gens privilégient la qualité à la beauté. Nous, nous valorisons la consommation locale, à savoir les produits de saison et de la région. Toutes les semaines, nous publions la composition de nos paniers et l'origine des produits qui les composent.
C'est à la suite d'un concours d'idées à Lisbonne qu'Isabelle s'est lancée dans l'aventure de Fruta Feia. Le projet est jugé durable et viable. Il décroche la seconde place et un prix de 14 000 euros. Aujourd'hui, 4 salariés travaillent à la coopérative et bientôt 2 autres seront embauchés à Porto. Convaincre les agriculteurs n'a pas été le plus facile. Isabelle Soares.
Les agriculteurs sont exploités depuis des années. Les prix ont été écrasés et cela fait des années qu'on leur répète que leurs pommes ou leurs épinards doivent être parfaits. Moi, quand je suis allée les voir avec mon projet de Fruta Feia pour leur expliquer que je voulais acheter leurs produits invendables, ils ne m'ont pas cru. Ils ont pensé que j'étais de l'agence de contrôle sanitaire ou bien que j'étais folle. Ils n'avaient pas confiance. À partir du moment où ça a démarré, tout est devenu plus simple. Le bouche à oreille a fonctionné. Ils ont vu qu'on allait vraiment sur le terrain pour acheter les produits et qu'on payait cash. Maintenant, c'est eux qui nous appellent.
Toute la matinée et dans un rayon de 200 km maximum autour de Lisbonne, l'équipe de Fruta Feia charge les commandes passées au préalable selon la définition des paniers du jour. Ici, des navets trop gros, là, des carottes trop petites. Isabelle paye cash contre facture. À Lisbonne, sur les lieux de distribution, ce sont les volontaires qui préparent la distribution des paniers. Yasmine, très impliquée.
Dans le système de notre économie, qui est très mal fait. Nous allons chercher des produits, soit en Espagne, en France, ailleurs, même des fruits, des tropiques, des choses comme ça. Quand ici, localement, nous avons des produits que nous pouvons utiliser. Alors, ça fait aucun sens pour moi de ne pas utiliser ces produits qui sont frais et qui fonctionnent de la même façon dans une cuisine. Moi, je fais le potage, je fais toute ma nourriture avec ces produits, et c'est exactement pareil.
Il faut travailler vite. Chaque volontaire aura droit à son propre panier. Dans la semaine, 800 au total seront distribués. Mia, qui dans une journée a fait chauffeur puis livreur, se transforme en caissière. Les clients de la coopérative viennent chercher un petit panier à 3,50 euros ou un grand à 7 euros. Mariette est une fidèle.
Moi, je suis satisfaite. C'est vraiment une bonne idée. Et puis, ça aide beaucoup les gens du quartier comme moi. Avec un panier à 3,50 euros, c'est moins cher que chez les commerçants du coin. Bon, c'est vrai, chez eux, on déguste d'abord avec les yeux. Et si on compare avec un fruit du supermarché, alors bien sûr, la pomme de Fruta Feia n'est pas aussi belle. Mais le goût est le même, voire meilleur.
Avec la crise au Portugal, les consommateurs bénéficient de produits frais et bon marché. Pour Isabelle Soares, l'objectif prioritaire reste le changement de modèle économique. Une idée qui progresse. Aujourd'hui, Fruta Feia compte 3700 clients sur liste d'attente.
Un reportage de Marilyn Darcy qui propose également ce sujet en images sur le site RFI.fr. Un reportage réalisé avec le soutien de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne.
Music.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Dans votre chronique musique, aujourd'hui vous faites dans l'expérimental.
Un peu d'étrange aujourd'hui de la musique, pas comme les autres, avec l'espagnol Borja Flames, musicien basé à Paris, que l'on connaît comme moitié du duo June et Jim, et qui vient de publier un premier album solo tout à fait étonnant, fruit d'un parcours où se sont croisés la chanson, le rock garage, les musiques improvisées ou expérimentales, les compositions pour le théâtre ou la danse. Le CV de Borja Flames a des allures d'inventaire à l'après-verre, un peu comme cet album, Nacer Blanco, où la douceur du chant en espagnol semble se heurter aux percussions et claviers, et où les mélodies empruntent des chemins accidentés au fil de chansons qui sont comme autant de petites aventures, évoquant régulièrement le travail de l'anglais Robert Wyatt, l'artisanat à son meilleur.
Yo soy como quien dice, dicen es normal. A primera vista es normal, si no fuese por... Yo soy como quien yo soy como quien dice dice a primera vista a primera vista es normal si no fuese un canto de alabanza o de perdición de perdición un paso en falso con facilidad ahí sí lo sabré yo soy como quien dice dicen es normal. A primera vista es normal, si no fuese por un canto de alabanza o de perdición, un paso en falso con facilidad, ay sí lo sabré. Crucemos los dedos, toquemos madera. Yo soy como quien dice, carne de cañón, sangre nueva y fresca, pequeño gran sol, pequeño negro sol, pequeño negro sol. Flota como flota corcho, como y corcho y es fácil de hundir. Flota como el corcho y es fácil de hundir. ¿Qué será lo que me hace ver todo así? Todo un filón, toda una atracción. Los dedos, toquemos madera.
Yo soy
como quien dice, gallo de corral, tigre en horas muertas, a veces cazador, es buena señal, muy buena señal. Gracias, compañero. Gracias, mi amor. Punto clave neutro, apoyo primordial. ¿Qué sería yo? ¿Qué sería si?
Yo soy como quien dice gallo de corral.
Crucemos los dedos, toquemos madera. Pero mañana vuelta a empezar.
Extrait du dernier album des Hispaniques de Borja Flames. On se retrouve demain pour une nouvelle rediffusion de nos meilleurs instants dès 17h40 en universel.
Progressive. géopolitique,